Le journal Sébastien Legénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une ce matin, un permis vélo pour les petits. C'est la nouvelle idée du gouvernement pour développer la bicyclette en France, mais tout en respectant le code de la route. Reportage à suivre. Et si la fin des 35 heures revenait dans le débat, révélation à venir dans ce journal. Dans ce journal également, Washington qui demande l'extradition de Julian Assange, une nouvelle école salafiste fermée à Grenoble, et enfin l'arrivée ce week-end de la dernière saison de Game of Thrones, Winter is Coming.
Et à 7h50, à quoi sert la littérature? L'écriture peut-elle être un remède à la perte et à la souffrance? Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik publie la nuit « J'écrirai des soleils » aux éditions Odile Jacob, et il sera notre invité.
France Inter.
Savoir pédaler est une chose, savoir rouler à vélo en est une autre.
Et c'est pour sensibiliser les plus jeunes aux rudiments du code de la route en deux roues que le gouvernement s'apprête donc à lancer la semaine prochaine une nouvelle formation à l'école. 10 heures de cours de vélo avant d'entrer au collège. L'objectif est double, multiplier l'usage du vélo en France, mais le faire en toute sécurité. Or, les chiffres ne sont pas bons. Le nombre de cyclistes tués sur la route augmente chaque année de 2,4%, d'où l'idée d'inculquer les mêmes règles à tous dès le plus jeune âge. Julie Pietri.
Il veut faire coucou de la main et se vautre un peu plus loin.
L'idée, c'est de dire que rouler à vélo doit devenir un vrai savoir, comme lire, comme nager, avec des règles à apprendre et pas seulement avec papa-maman.
Super!
Cette formation ne sera pas obligatoire, mais vivement conseillée et sera proposée parfois à l'école, parfois en club de cyclisme. Emmanuel Barbe, délégué à la sécurité routière.
La bicyclette, c'est une chose formidable. Ça fait faire l'exercice, c'est non polluante, mais il y a un certain apprentissage à avoir. Si on observe la pratique cycliste, par exemple, à Paris, on peut s'interroger s'il n'y a pas eu un déficit d'enseignement quand les cyclistes d'aujourd'hui étaient jeunes. Plus on commencera tôt, mieux ce sera.
Il tombe.
Les ateliers seront proposés aux 6-11 ans avec des exercices pratiques sur le vélo, avec des panneaux à déchiffrer et un rappel aussi de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas.
On ne le sait pas toujours, mais il est interdit de faire du vélo avec des écouteurs dans les oreilles. Ce n'est pas pour le plaisir d'interdire, c'est tout simplement qu'il faut avoir tous ses sens en éveil pour prendre soin de soi. En gros, il faut que le jeune sorte de l'école primaire en ayant ses acquis véritablement qui lui permettent d'utiliser la bicyclette en toute sécurité.
Retombe. Il sera également rappelé que le casque est obligatoire jusqu'à 12 ans et à la fin de cette formation, l'enfant recevra une attestation.
Julie Pietri, l'opération Savoir rouler à vélo sera lancée mercredi prochain par 4 ministères, éducation, sport, intérieur et transport. La sécurité au passage à niveau, elle ne s'améliore pas. Information de nos confrères de France Info. Selon un rapport parlementaire publié aujourd'hui, malgré 3 plans successifs en 30 ans, le nombre de victimes n'a pas baissé de manière significative car les pouvoirs publics n'ont concentré leurs efforts que sur les passages à niveau les plus dangereux, seulement 3% du territoire. L'après-grand débat arrive à grands pas, plus que quelques jours avant les premières décisions de l'Élysée, et une idée monte en ce moment au sein de l'exécutif, assouplit encore les 35 heures dans le but de faire financer la dépendance. La dépendance, un défi majeur, 10 milliards d'euros de plus à trouver chaque année à partir de 2030. Eh bien, la piste explorée par le gouvernement permettrait de faire d'une pierre deux coups, faire tomber ce totem des 35 heures et s'attaquer à ce dossier explosif de l'augmentation de la durée de vie. C'est une indiscrétion France Inter signée Laurence Perron.
Le Premier ministre, en début de semaine, a été très clair.
Le besoin de changement est si radical que tout conservatisme, toute frilosité serait impardonnable.
Et si finalement la crise des Gilets jaunes pouvait servir d'accélérateur au projet du président de la République. Certains, en haut lieu, y pensent. L'assouplissement, autrement dit la remise en cause des 35 heures, qui figurait d'ailleurs dans les engagements du candidat Macron. On se rappellera encore cette phrase prononcée devant le MEDEF alors qu'il était ministre de François Hollande. La fausse idée selon laquelle la France pourrait aller mieux en travaillant moins. Mais désormais, explique ce ministre influent, l'exécutif assigne un but à se travailler plus. Le financement du cinquième risque, la dépendance, désormais annoncé comme l'un des grands chantiers du mandat. Mieux que de reculer l'âge légal de la retraite, trop anxiogène convient ce député de la majorité, mieux que de creuser le déficit ou de créer un nouvel impôt, ça c'est interdit, la fin des 35 heures sur l'autel de la protection de la grande vieillesse, ce serait un retour très pur au « en même temps » des débuts du macronisme.
Laurence Perron du service politique de France Inter. Les Champs-Élysées seront à nouveau interdits aux Gilets jaunes demain samedi pour leur 22e acte, décision hier de la préfecture de police de Paris. Le mouvement des Gilets jaunes qui par ailleurs inspire le cinéaste Jean-Luc Godard, le chef de file de la Nouvelle Vague, qui affirme pouvoir en faire un film pour raconter, je cite, l'état de ce pays, la France. Déclaration à suivre dimanche dans une interview à la télévision suisse. Le gouvernement, qui par ailleurs poursuit sa politique de fermeture des écoles d'inspiration salafiste. Après Marseille, l'an dernier, Jean-Michel Blanquer, hier sur France Inter, lors du téléphone sonne, a annoncé la fermeture d'un établissement dans l'académie de Grenoble, conséquence d'une loi adoptée l'an dernier qui durcit le régime d'ouverture des établissements scolaires hors contrat. Les explications de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale.
Nous avons voté la loi Gatel, qui m'a permis de multiplier par deux les refus d'ouverture d'école à la rentrée dernière, et notamment celle qui était inspirée par le salafisme.
Ça veut dire combien on en refuse par an ?
C'est autour d'une dizaine, si vous voulez. Et là, effectivement, je viens de prendre la décision sur les bases juridiques et concrètes que j'avais de fermer une école d'inspiration salafiste dans l'académie de Grenoble. Nous réaffecterons les 40 élèves concernés au retour des vacances, mais c'est, je crois, un exemple du fait que nous avons pris le taureau par les cornes sur ce sujet qui est grave, puisque nous avons noté qu'au cours des dernières années, il y a eu le développement de structures scolaires ou proto-scolaires inspirées par des idéologies radicales, et évidemment nous voulons empêcher cela, et c'est ce que nous faisons.
Jean-Michel Blanquer au téléphone sonne hier soir.
7h37, il vivait depuis 7 ans dans une pièce de 18 mètres carrés sans lumière du soleil.
Sa longue barbe blanche a fait le tour des télévisions du monde entier. Hier, Julian Assange, arrêté par la police britannique après que l'Équateur a décidé de mettre fin à son asile politique, débute maintenant un long processus judiciaire où les avocats du fondateur de Wikileaks comptent bien contester la demande d'extradition des États-Unis, où Assange est poursuivi pour avoir permis la publication de dizaines de milliers de documents militaires. Les États-Unis qui, après avoir fait preuve d'une certaine clémence, veulent maintenant juger celui qu'ils accusent de piratage informatique. À Washington, Grégory Phillips.
L'administration Obama avait finalement renoncé à poursuivre Julian Assange afin de ne pas se voir reprocher d'attaquer la liberté d'expression et de publication et le premier amendement de la Constitution des États-Unis. 5 ans plus tard, en pleine campagne électorale, le candidat Donald Trump se félicite même de l'existence de Wikileaks qui, à l'automne 2016, vient, avec l'aide de hackers russes, de publier des milliers de courriers électroniques récupérés dans les ordinateurs du Parti démocrate et dans ceux du directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta. Presque à chaque meeting, Trump dit ceci. Regardez ce qui vient d'être publié. J'adore Wikileaks. Mais en 2017, le site publie cette fois des documents compromettants pour la CIA. Le patron de l'agence de l'époque, Mike Pompeo, dit que Wikileaks est un organe de renseignement non étatique, hostile et qui menace la sécurité des États-Unis. La procédure est alors relancée contre Assange. Hier après-midi, quand dans le bureau ovale, des reporters interrogent Trump sur l'interpellation qui vient d'avoir lieu à Londres, le président des États-Unis a un discours très différent de celui qu'il tenait en tant que candidat. Je ne connais pas Wikileaks, ça n'est pas mon truc. L'administration Trump a visiblement changé de regard sur Wikileaks et sur Julian Assange, qui risque ici 5 ans de prison. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
L'État hébreu n'entrera pas dans l'histoire comme le 4e pays à avoir fait se poser un engin sur la Lune. Sa sonde Bereshit s'est écrasée cette nuit, victime d'une panne moteur à seulement 10 km de l'arrivée.
Conquête spatiale toujours, Sébastien, avec cette expérience unique menée autour de deux jumeaux astronautes de la NASA.
Ils s'appellent Scott et Mark Kelly, vrais jumeaux comme on dit. Une opportunité dont s'est saisie la NASA pour mener une enquête sur l'impact de la vie dans l'espace, dans la prévision d'un séjour vers Mars. L'un des deux jumeaux a passé 340 jours dans l'espace pendant que l'autre est resté sur Terre. Résultat avec Sophie Becherel.
Le commandant Scott Kelly va très bien, mais le diable se cache dans les détails. À regarder ses chromosomes, les chercheurs ont vu de petites modifications après une année en apesanteur. On savait déjà que l'expression de 7% de ses gènes avait été modifiée par l'environnement spatial. À présent, on découvre que les télomères ne sortent pas indemnes non plus. Les télomères, ce sont les extrémités des chromosomes. Ils raccourcissent sous l'effet du stress, de l'âge ou de l'inflammation. Ceux de Scott Kelly dans l'espace se sont allongés. Une fois rentrés sur le plancher des vaches, ils ont retrouvé leur taille normale, sauf certains anormalement raccourcis. Quant aux radiations, la NASA a mesuré qu'il avait reçu 146 millisieverts. En France, on tolère 1 millisievert par an pour la population générale. De quoi s'interroger sur les contre-mesures à mettre en place pour les missions martiennes. Pour l'astronaute Jean-François Clairvoy, le capital génétique pourrait désormais compter pour sélectionner les futurs équipages.
on pense qu'il est probable qu'on introduise dans les critères de sélection des critères génétiques. Les astronautes ne sont pas égaux devant, par exemple, la perte de densité osseuse. Certains ont volé 4, 5 fois, 6 mois dans l'espace avec 0% de perte de densité osseuse. D'autres astronautes, après un seul vol de 6 mois, perdent 20%. C'est pareil pour la résistance aux radiations.
Sans compter la résistance psychologique à un très long voyage de 900 jours, il faudra occuper les équipages car l'étude le suggère. Sans travail, les astronautes voient leur performance intellectuelle diminuer.
Les jumeaux de la NASA retrouvés sur franceinter.fr. La bataille du streaming est engagée. Netflix connaît désormais la date à laquelle son principal rival va ouvrir sa plateforme. Disney Plus sera disponible à partir du 12 novembre 2019 aux États-Unis, avec au menu de quoi faire très mal à la concurrence, les dessins animé Pixar, les franchises Star Wars et autres Marvel.
Et on termine avec la sortie du week-end, d'une sortie mais sous la couette.
Ouais, c'est J-3 avant la sortie de la saison 8 de Game of Thrones. C'est dans la nuit de dimanche à lundi que l'on découvrira le premier épisode de l'ultime saison de la série télévisée la plus populaire, la plus diffusée de ces dernières années. Thibault Lefèvre a rencontré Alex et Guillaume, deux fans de la première heure.
Game of Thrones, c'est avant tout un générique et une musique avec des anneaux qui survolent une carte des sept royaumes en guerre pour le trône de fer.
Rien que de le fait que tu le fredonnes, j'en ai déjà les poils.
Car dans la nuit de dimanche à lundi, ça fera un an et demi depuis la fin de la saison 7 qu'Alex, 37 ans, n'aura pas vu ou revu un épisode de la série.
Je serai dans mon fauteuil avec ma femme, je regarderai ça avec les yeux d'un enfant de 6 ans qui attend ses cadeaux de Noël, hein. C'est comme un beau cadeau qu'on va nous faire, donc ouais, comme un enfant quoi.
Et si le Noël des fans tournait au fiasco, c'est une hypothèse que Guillaume, tout juste 20 ans, ne peut s'empêcher d'envisager.
Avec le nombre de fans de la série qui sont abonnés à HBO, qui sont abonnés à OCS et autres, le plus gros gag qu'on pourrait avoir serait que le nombre de connexions simultanées sur leur site fasse que ça crache et qu'on n'ait pas d'épisode. Mais tant pis.
Alors, avec ou sans épisode dimanche, le débat entre fans, c'est évidemment l'épilogue de la série, avec pour le moment une seule certitude.
Il va y avoir beaucoup de morts.
Et une question essentielle. Qui des marcheurs blancs venus du Grand Nord ou des hommes en guerre permanente vont finalement réussir à monter sur le trône de fer ?
Voilà, saison 8 de Game of Thrones. Vous aussi, vous en avez les poils, Ali, et vous ne serez pas le seul. 186 pays vont le diffuser en même temps, c'est-à-dire pas moins d'1 milliard de téléspectateurs potentiels.
J'en ai les poils. Merci Sébastien Legénie.